Bonjour, bienvenue dans un monde vert et blanc, vert pelouse, vert gazon et bientôt vert crampon. Bientôt aussi ce sera marron parce qu'on s'est jeté dans la boue. 90 minutes durant, on aura donné de sa personne. Il y aura peut-être un petit peu de sang sur les genoux, mais on s'en fout. Ça met du rouge et pas qu'aux joues. Ouais, il y a du rouge dans ce monde-là. Un rouge qui claque, un rouge qui pique, un rouge qui enflamme une tribune et puis qui brille là-haut dans le ciel longtemps après la fin du match. Cette étoile rouge, c'est pas Moscou, non, c'est beaucoup plus près de nous. Une banlieue rouge, c'est à Saint-Ouen, le Stade Bauer et le Red Star. Bien sûr que oui, vous connaissez plus qu'un club, c'est un mythe singulier, universel, légendaire. Il y a du populaire dans ce rouge blanc vert, il y a de l'histoire ouvrière, il y a de l'âme de supporter. C'est une histoire métissée, on pourrait dire black, blanc, beurre si on voulait la raconter, mais ça ferait un peu taper pour un club qui ne meurt jamais. 120 ans de foot au compteur, c'est un phénix, c'est un ovni ou bien c'est un miraculé, vous déciderez, vous nous direz, parce que ce monde-là, c'est le vôtre. Que vous soyez footeux ou pas, vous ne pouvez y être étranger, parce que c'est de l'aventure, parce que c'est de l'humain, c'est vous. C'est nous. Alors ce matin, bienvenue dans les tribunes, sur la pelouse et même dans les vestiaires du Red Star.
France Inter. Dans quel monde on vit ? Julia Foyce.
Et pour nous infiltrer dans les coulisses du Stade Bauer, nous avons le plaisir d'accueillir un homme capable d'en tracer chaque contour à l'aveugle ou presque, le dessinateur Gilles Rochier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur de BD, vous signez pour le numéro estival de la revue dessinée les illustrations de cet article Football Social Club, une plongée au cœur de ce club si particulier. Tout est dans le titre, hein. D'ailleurs, le Social Club, le Red Star, c'est avant tout un endroit où le peuple, au sens premier du terme, se rencontre, se mélange.
Se retrouve.
Ouais, c'est ça. Pour
après
vous, le Red Star.
Ouais.
Ouais. Vous l'avez connu comment, vous, ce club-là, votre toute première fois au Red Star, vous vous en souvenez ?
C'est les souvenirs de mon père qui arrive d'Algérie et qui va supporter la première équipe qu'il rencontre, qui est le Red Star.
Alors, vous vous mettez en scène, vous vous dessinez dans cette revue et en fait, il vous a emmené quand vous aviez 8 ans, mais vous avez complètement oublié.
Ouais, il m'a emmené dans beaucoup de stades de France et je ne me souvenais absolument pas de celui-ci. Ouais.
Parce que c'est ça aussi un stade de foot, c'est un endroit où on se retrouve. Longtemps, on s'est retrouvés entre mecs, entre père et fils, entre frères, puisque votre père vient d'Algérie et vient avec son frère dans les tribunes du Red Star. C'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Donc c'est un truc de bonhomme, quoi.
Ah, j'ai pas envie de réduire le truc comme ça, c'est pas vrai. Ça l'a longtemps été, ouais.
Ça n'est plus le cas aujourd'hui, bien entendu. Vous êtes connu et reconnu pour vos chroniques de la vie en banlieue. Vous-même, vous avez grandi dans une cité du Val-d'Oise et vous avez dit un jour, la BD m'a sauvé en me sortant du quartier. Comment ?
Bah parce que ça permet de rencontrer plein de gens, ça permet d'aller faire des dédicaces, ça me fait sortir du périph, ça me sort d'un quotidien. Ça m'a sauvé la mise de toute façon. C'était pas écrit du tout que je fasse cet étrange métier d'auteur. Ça me fait voir autre chose. Et puis je peux envisager d'aller parler d'autre chose aussi. C'est un peu mystérieux pour moi de parler de ça. Ouais, ça m'a sauvé la mise. Ouais.
Vous dessinez depuis toujours. Est-ce que le foot a aussi toujours eu une place dans votre vie d'enfant, d'adolescent ?
Autant que le dessin. C'est le foot et le dessin.
C'était quoi pour vous, le foot ? Il se passait quoi ?
Le foot, c'est des parties interminables sur des terrains en béton, sur des bouts de pelouse. C'est des matchs, c'est des tactiques, c'est des défaites, c'est aussi des bagarres, c'est les copains, c'est la pluie, la boue, c'est des courbatures, c'est mille choses, le football.
Il en reste quoi aujourd'hui pour vous dans votre vie d'adulte ?
Des genoux qui marchent pas très très bien, une surcharge pondérale.
Vous jouez encore ?
Ouais.
C'est
mal.
Vrai ? Ouais.
Mal, avec beaucoup de Doliprane et de Dafalgan, mais je joue toujours. Ouais, c'est un jeu. Hein,
ça vous apporte quoi comme plaisir ? Ça vous sort de votre bulle pour le coup ?
Ouais.
Ouais. Eh ben voilà. Ben on va dire ouais. On va dire ça comme ça. On va vous suivre ce matin, Gilles Rochier, dans le sillage du Red Star. Avec vous, on croisera des présidents ambitieux, des entraîneurs courageux, des supporters amoureux. Et puis des joueurs venus des quatre coins du monde, des fils d'ouvriers, des résistants, des qui luttent, des qui combattent, qui à eux tous racontent un peu de notre histoire. Et ça, c'est pour le coup d'envoi.
Money.
Fait du bien, Illusions, Cypress Hill, sacré groupe de hip-hop le plus sexy du monde, si, indéboulonnable baron du rap West Coast. Ils sont de la partie au festival Rock en Seine le 27 août et ça, c'est une bonne nouvelle. Si vous voulez en partager d'autres avec nous, des bonnes nouvelles, vous pouvez nous écrire à cette adresse, dans quel monde on vit, @radiofrance.com. Twitter, ça marche aussi, on est là, on vous répondra pour ça, un hashtag, dans quel monde on vit. D'ailleurs, puisqu'on parle de Twitter, je précise que quand, hier, en préparant l'émission, j'ai vu apparaître sur mon fil Twitter, le Red Star vous suit désormais. Je sais pas si j'ai sauté de joie, complètement flippé, un peu des deux certainement. Confortablement installé dans les tribunes du Red Star, on se plonge ce matin dans l'univers de ce club de foot mythique assez unique en son genre. Peu de moyens, peu de Ligue 1, un stade un peu décrépit par endroits, mais une ferveur intacte et l'une des histoires les plus longues du foot français. Pour nous la raconter, aux côtés du dessinateur Gilles Rochier, vient de s'installer en studio le journaliste Pierrick de Morel. Bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui signez le texte de cet article Football Social Club publié dans le numéro de l'été de la revue Dessinée. Alors, pour les néophytes, si on faisait un parallèle avec un club voisin, le Red Star, est-ce que c'est l'anti-PSG?
Je l'attendais celle-là. J'étais sûr qu'on allait avoir cette comparaison. C'est très différent parce que le Red Star est un très vieux club, ouais, alors que le PSG est tout jeune.
Ils ont 70 ans d'écart, hein, c'est ça?
C'est ça. Nous, on a voulu raconter cette histoire maintenant parce que 2017, c'est les 120 ans du club. Le PSG est né en 1970 et aujourd'hui, évidemment, c'est deux sphères totalement différentes, c'est deux histoires incomparables.
Mais même en 70, vous décrivez les gens du PSG arrivés sur les terrains avec leur maillot signé Daniel Echter.
En 73, une des dernières saisons du Red Star, c'était en Ligue 2, pardon. Et c'était le premier match du PSG au Parc des Princes. Et le PSG a gagné 3-1 ce soir-là contre le Red Star, qui ensuite a poursuivi sa dégringolade dans les tréfonds du football français. Et c'est un peu la courbe, la date où les destins se sont croisés. Le PSG est devenu le club qu'on connaît aujourd'hui, et le Red Star a poursuivi son destin.
Un club très très riche. Vous parlez d'un budget 65 fois plus important. C'est quoi?
C'est deux mondes différents. Ouais.
C'est deux mondes très différents. Est-ce que c'est deux classes sociales aussi très différentes? Encore une fois, pardon pour la mention des maillots Daniel Echter, mais enfin, ça veut dire que dès le départ, le PSG s'inscrit.
C'est un club un peu bling bling. Le PSG, il y a cette image un petit peu de club capital, la Tour Eiffel sur le logo. Oui, non. C'est deux histoires qui se sont un peu en parallèle, mais elles se sont croisées une seule fois, on le raconte dans la BD, mais elles sont incomparables.
Et non, alors attention, il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Évidemment, quand on parle de foot, le Red Star n'est pas un club parisien, c'est
francilien.
Un club francilien,
c'est ça.
Très bien. Pourquoi
Saint-Point,
c'est important?
On n'est pas à Paris. Bah justement pour ça, pour pas
qu'il y ait
cette confusion. Je pense pour les supporters du Red Star, de dire voilà... c'est une comparaison avec le PSG qu'on entend souvent, et les supporters du Red Star ne sont globalement pas des supporters du Paris Saint-Germain. Et voilà, il y a une limite géographique qui est réelle, qui est le périphérique. Ça paraît tout bête, mais le Red Star est un club audonien, un club de Saint-Ouen, et le PSG est le club de la capitale de Paris.
Archétype du foot business parisien, voilà ce que le Red Star n'est pas. Quant à savoir ce qu'il est, c'est d'abord une photo que vous avez choisie pour planter le décor, Gilles Rochier. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi ou plutôt de qui il s'agit ?
C'est une photo de Rino Della Negra. C'est, je dirais que tu me contredis si je dis bêtises, c'était un joueur du Red Star qui a été fusillé pendant la guerre.
Les nazis,
parce que résistant, ils faisaient partie du groupe Manouchian, je crois. Et ses derniers mots étaient de dire « Allez saluer mes frères du Red Star
». Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente pour nous ?
C'est un visage qui est sur tous les tifos dans les tribunes. Il y a une commémoration tous les ans où on emmène les minots du club expliquer qui était ce mec et ce qu'il a fait.
Il y a une plaque aussi.
Le collectif de supporters a fait poser une plaque devant le stade et il y a une cérémonie tous les 21 février. Ça correspond à l'anniversaire de son exécution au Mont-Valérien. Et c'est un symbole très présent dans les tribunes. Les supporters d'ailleurs essaient de faire renommer leur tribune, la tribune Rino Della Negra, que ce soit acté que ce personnage ait vraiment sa place à Bauer. C'est vraiment un symbole fort des supporters aujourd'hui.
Mais qu'est-ce que ça raconte de ce club ? Le fait qu'il y ait une tribune Rino Della Negra, le fait qu'on continue de saluer sa mémoire, qu'est-ce que ça raconte ?
Déjà une identité antifasciste assumée, c'est-à-dire qu'il y a eu les supporters du Red Star sont très impliqués dans la lutte contre le fascisme. Il y a quelques années, il y a eu un supporter du Red Star qui a été tué, Clément Méric, lors d'une baston dans les rues de Paris. Et on a vu là toute la mobilisation des supporters. Il avait été tué justement pour une question politique. Rino Della Negra, c'est ça, c'est défendre ce personnage qui avait lutté contre le fascisme, qui l'a payé de sa vie, et d'en faire un symbole aujourd'hui présent dans les tribunes.
C'est des valeurs humanistes qui sont présentes dès la naissance du Red Star, Gilles Rochier. Il y a cette envie-là.
Ouais, c'est des idées humanistes. Moi, je me posais cette question pendant qu'on faisait le reportage avec Pierrick. C'était ces propos antifascistes remontaient beaucoup dès que je parlais du club avec les supporters ou les dirigeants, les choses comme ça. Et en même temps, je me posais la question, on est dans une période où les banlieues sont si vérolées par le Front National. Comment les deux idées, comment les deux populations se rejoignent, se retrouvent. Et j'avais du mal à croire qu'on arrivait encore à ramener l'idée et l'honneur de ce type dans les tribunes. Et malgré ça,
pourtant,
foncièrement, oui.
Alors, vous racontez cet acte de naissance, Pierrick de Morel, dans votre article. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Ça se passe dans un café parisien du 7e arrondissement, c'est ça ?
Exactement, avec Monsieur Jules Rimet, qui est un personnage assez connu pour les amateurs de football, qui est le père de la Coupe du Monde. C'est lui qui a donné cette idée d'une compétition internationale entre les pays. Et ils sont réunis, donc on est en 1897, dans un café parisien avec ses frères, des amis. Et ils disent, voilà, on va fonder un club de foot. Ça naît comme ça. Donc au départ, le Red Star est un club effectivement parisien qui a commencé à jouer dans le 15e, qui a joué sur le Champ de Mars aussi, qui a joué à Meudon. Saint-Ouen, c'est venu plus tard, c'est venu en 1910. Et l'idée, c'était, on parlait d'humanisme, un petit peu de faire un club social qui soit ouvert à tous et dans lequel il y aurait une part d'éducation aussi des jeunes, leur transmettre des valeurs. Bon, à l'époque catholique, je dirais bien catholique. Ouais. Donc c'est ça l'acte de naissance du Red Star.
Et le nom ?
Alors non, il y a plusieurs versions. Celle qu'on raconte. Non, alors c'est ça aussi la particularité du club, c'est qu'on vous dit le Red Star, c'est pas une ville. On connaît Lorient, Bordeaux, c'est des noms de villes. Le Red Star, non, le Red Star, c'est Saint-Ouen. Le Red Star, il y a deux versions. Alors nous, on a retenu celle qui semble la plus crédible. C'est qu'à l'époque, la famille Rimet avait une gouvernante, Miss Jenny, qui était une Britannique, et qui, quand elle traversait la Manche, prenait la Red Star Line. Donc voilà, c'était ça.
Alors, à l'état civil du Red Star, sur sa fiche d'identité, il y a aussi cette devise « Notre cœur, notre force ». Gilles Rochier, elle dit quoi pour vous, du club, cette devise ? Elle parle de quoi ? Elle parle d'amour, vraiment ?
Je crois qu'elle parle aussi du stade, en fait. En même temps, c'est des baselines, un petit peu, tout ça.
Oui, mais ils auraient pu en choisir une autre. Alors, celle-là, elle vous parle comment ? Elle vous dit quoi pour vous ?
C'est l'amour. Enfin, quand on aime un club de foot, on y met toujours des adjectifs. C'est mon cœur, c'est mon. Et le Red Star, c'est
un peu le monde des bisounours, quoi. C'est ça ?
Non, mais on a besoin de propos forts aussi pour se sentir réunis autour des autres et on parle de cœur et de, je veux pas réduire le truc, mais.
Ok, donc les joueurs du Red Star sont des guimauves, très bien.
Pas du tout.
Et là, je vais me faire plier sur Twitter. Pardon, c'est une blague.
Pas du tout, mais je pense que dans d'autres clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2, on peut utiliser des adjectifs comme celui-ci aussi pour dire qu'on est tous ensemble. Pierrick, je dis.
Ah, il faut savoir que cette devise, notre cœur, notre force, c'est une devise du club, mais les supporters, ils en ont une autre. C'est notre stade, notre force. On va beaucoup parler du stade Boer ce matin, j'imagine.
Oui, bien sûr.
Et c'est notre cœur, notre force. Oui, c'était plus un label, en fait, qui permettait de réunir pas mal de partenaires autour d'une idée. Voilà, ce club est important. Notre stade, notre force, donc la devise détournée des supporters, c'est plus pour dire, bah, nous, on aime ce club, mais on aime aussi son stade, dans lequel le Red Star joue depuis 1910, par intermittence. Il y a eu des années d'interruption. Et qui est vraiment, j'ai envie de dire, un personnage presque à part entière de cette histoire du Red Star, du Stade Boer.
Un mot encore pour nous plonger dans cette toujours dans ce monde-là, un univers aussi des couleurs, c'est du vert, c'est du blanc, c'est du rouge. Est-ce qu'on a une idée d'où elles viennent, ces couleurs-là?
C'est Jules Rimet au départ. J'ai pas vraiment trouvé d'explication. En tout cas, l'étoile rouge n'est pas un symbole communiste comme tout le monde. Non, mais c'est vrai. Quand le club est né,
on va le dire aussi. Mais l'histoire du club est liée.
Elle a fini par l'être, mais au départ, l'étoile rouge n'est pas un symbole communiste. Non, c'est des couleurs comme ça.
Et ben, si vous avez des suggestions, vous connaissez l'adresse, enfin le compte Twitter, ça c'est le mien, compte perso, avec le hashtag Dans quel monde on vit. Voilà, on a Rino Della Negra, on a la Résistance, on a la Nurse Anglaise, on a le tout sur une pelouse avec de l'herbe fraîchement coupée. Ça sent bon le gazon, et pour la bande son, c'est évidemment ça que vous avez choisi. Je précise que c'est le choix de Gilles Rochier et que Pierrick de Morel est actuellement mort de rire juste à côté. Alors pourquoi? Qui commence? Ouais, pourquoi?
Bah non, parce que c'est drôle, parce que le Red Star n'a jamais été champion, en tout cas champion de France.
Non, mais c'est le titre de toutes les victoires. Vous mettez ça dans tous les vestiaires, même quand vous gagnez contre une petite équipe. Enfin, les pupilles, les minots.
Mais ils écoutent du PNL, ils écoutent du Maître Gibbs.
Mais non, il y a tous les grands stades mettent ce titre avant.
Oui, les grands stades, mais pas les joueurs dans les vestiaires.
Alors, le fait est que vous avez raison, Pierrick de Morel, il n'y a pas de grands champions dans l'histoire du Red Star. Il y a des grands joueurs qui s'y sont formés. On y passe, mais on n'y reste pas.
C'est un peu le problème. Ça aussi, c'est une grande question, la formation. On parle toujours du vivier francilien. Il y a beaucoup de jeunes footballeurs excellents en Ile-de-France. Mais le Red Star n'a pas de centre de formation. Alors du coup, ils y passent quand ils sont jeunes. Et puis quand il faut franchir l'étape supérieure vers le monde pro, ils s'en vont. On cite des cas comme Lassana Diarra, qui est passé par l'OM, Moussa Sissoko, qui joue aujourd'hui à Tottenham. Dans l'actualité, hier, il y a Sofiane Feghouli, qui a signé à Galatasaray. C'est des joueurs qui ont joué, ont porté le maillot vert en jeune, et puis qui sont partis au Havre, à Grenoble, pour se former ailleurs, parce que le club n'a pas les structures pour les aider à accéder au monde pro.
Et puis après, ils y reviennent, à des postes d'encadrement. Je pense à Roger Lemaire que vous citez, je pense à Steve Marley aussi. On y revient toujours à ce club-là, on s'en défait jamais totalement du Red Star, Gilles Rochier.
Bah, c'est histoire de cœur un peu, je crois.
On y retourne. Il y a un attachement.
Ouais, je crois. Ouais.
Est-ce qu'on y revient? On y revient pas toujours. Enfin,
non, pas toujours.
Mais l'attachement, oui, il est réel. Moussa Sissoko, qui a été élu meilleur joueur de la finale de l'Euro, quand il quitte son club de Newcastle, il écrit une lettre aux supporters et à la fin, il a un mot pour le Red Star, alors qu'il est parti il y a 10-15 ans. Mais il y pense encore. Et Sofiane Feghouli aussi a dit, c'est mon club de cœur. Steve Marley, je pense que c'est vraiment son club de cœur. Il est aujourd'hui directeur sportif après avoir fait une partie de sa carrière. Il est parti après, il a joué à Lyon, il a joué à Fulham, à Wolfsburg, mais il est revenu au Red Star, il a joué en équipe de France, bien sûr, et l'attachement est réel. Mais je pense qu'on n'y revient pas forcément, parce que comme on l'a dit, il n'y a pas forcément les structures pour faire une carrière, même en tant que dirigeant, mais l'attachement, oui, je pense que c'est un club qui ne laisse pas insensible ni les supporters, ni les joueurs qui ont eu la chance d'y passer.
Et c'est dû aussi, bien sûr, à son histoire, qui épouse notre histoire, vous le racontez très bien, les deux guerre mondiale et puis mai 68 et puis l'apparition des banlieues rouges. Le destin du Red Star est intimement lié au destin ouvrier.
Aujourd'hui, je sais pas. À une époque, oui, c'est sûr, dans les années 30, quand la scission entre les banlieues et la capitale s'est fait plus nette, il y avait des usines à Saint-Ouen. Oui, c'est devenu un club ouvrier. Aujourd'hui, c'est un club, j'ai envie de dire, populaire, ouvert à tous, parce que au cœur de sa ville, c'est aussi le Stade Bauer, c'est aussi un stade qui est dans Saint-Ouen, qui est pas en périphérie, qui est pas donc voilà, un club accessible, un club pas très cher. Les abonnements aujourd'hui, on parlait de la différence avec le PSG et le Red Star, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, vous pouvez vous abonner au Red Star pour 60€. Au PSG, vous avez rien en dessous de 500-600€. Mais il a été, oui, il y a eu un lien avec l'histoire ouvrière de la ville, mais parce que de fait...
Et ça vaut pour les années florissantes de l'industrie comme pour les décennies plus récentes de chômage. Est-ce que ça impacte le club? Est-ce que ça impacte les supporters?
En tout cas, ce qu'on a montré, c'est que ce qui est drôle, c'est quand vous avez 120 ans, forcément, vous avez une histoire, évidemment.
Et je sais pas. J'ai pas encore 120 ans, donc je vous le dirai un jour, mais
vous me raconterez.
Je sais pas.
Mais du coup, de fait, l'histoire sociale et de la ville a eu un impact sur le club. Et ce qui est drôle, c'est que quand dans les années fastes le club allait bien, et dans les années un peu de les années 70, les années de décroissance, le club allait moins bien. Et voilà, ça c'est sûr qu'il y a une espèce de corrélation, alors qui à mon avis est une coïncidence. Je vois pas en quoi les joueurs auraient été affectés par le destin.
Non, mais il peut y avoir une morosité ambiante qui fait que...
Ah, j'y étais pas non plus, mais oui, je pense que effectivement c'est ça un peu, c'est de dire c'est le lien fort entre sa ville et son club.
Il est 9h30 sur l'antenne de France Inter, aux couleurs du Red Star ce matin, quasiment Saint-Aune aujourd'hui. Bah oui, on est rouge, pardi. Mais là, c'est la mi-temps, alors on boit de l'eau, on souffle, on s'étire et gaffe à pas trop courir.
De mauvaises herbes insoumises, lézardent les trottoirs. Je ne dors pas, j'ai l'insomnie de ma cité dortoir. Toute ma vie, j'ai rempli mon caddie d'illusions. Moi, je téléphone, je télécommande et je télévision. Silence, on tourne, on vit, on rit, mais ça ressemble à du playback. Mon banquier, c'est James Brown et tous les mois, c'est payback. Des millions d'Andy Warhol s'impatientent sur le quai de la gare pour un quart d'heure de trajet dans le train de la gloire. On veut être star, à l'instar des étoiles, l'intimité s'étale en prime time, se vend sur PayPal. On intronise le médiocre, plus de caviar que du Big Mac. On prépare une pensée fast-food dans les cuisines de l'Audimat. Du pain et des jeux pour calmer les ventres creux, du Xanax dans les meutes, du Prozac pour miséreux. Fermez vos livres s'ils vous apprennent à hésiter. Méfiez-vous, à vouloir vivre, on peut finir par exister. À trop courir après mes rêves, je fais des claquages au cœur. Quand j'y crois plus, je prends la plume pour prendre de la hauteur. À trop courir après mes rêves. À trop courir après mes rêves. À force des courbes se dessinent sous mon regard somnifère. J'ai voulu décourber les chines à courir après mes chimères. J'ai envolé mes rêves dans des avions de papier. Et j'ai voulu la vie de château en m'endormant dans un clapier. La mer est belle, monsieur, j'ai gommé les nuages. Voyez les valises sous mes yeux, elles m'invitent au voyage. Le ciel est beau, madame, j'ai dessiné l'image. Écoutez donc l'oiseau qui chante, enfermé dans sa cage. Je veux d'autres odeurs pour mes narines. Je danse, je tourne, petite ballerine sur baril de poudre. La poésie que je brode, c'est de la dentelle à coudre. Quand c'est l'orage dehors, j'en ai plus rien à foudre. J'ai fait des rêves d'un rien, maintenant j'ai rien que mes rêves. Et c'est leur loi des reins qui fait que je dérive loin au large. J'ai vu mon île, tu sais. Touché au but, j'y vais enfin, j'essaie. Des paquets de rimes pour que mon âme affleure. Je veux faire des victimes avec des armes à fleurs. Je ralentis le pas, je reprends mon souffle, parfois. et y a mes rêves qui tardent face au cadran qui tourne. À trop courir après mes rêves, je fais des claquages au cœur. Quand j'y crois plus, je prends la plume pour prendre de la hauteur.
Gaëlle Faye, à trop courir, l'une des pépites de la programmation musicale ce matin. Merci Elsa Béranger, merci également à tous ceux de Derrière la Vitre, à la technique Théo Gomard, à la réalisation Romain Imbertèche, à la coordination et la préparation de cette émission, Valentin Pérez et Johanna Hébert, assistés de Rose Bernard et d'Elisa Bondarenko. Voilà, c'est l'équipe, on n'est pas 11, ok, mais on peut quand même y aller.
Dans quel monde on vit ? Julia Voice sur France Inter.
Et alors maintenant, un de mes grands plaisirs, je vous raconte ce qui s'est passé hors antenne. On vient d'accueillir le président du collectif Red Star Bower, Vincent Chutet-Mézins. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le président, enfin le big boss des supporters du Red Star. Et vous êtes entré dans ce studio. Il faut dire que, comment dire, vous n'êtes pas du genre fluet, hein, vous êtes même assez costaud. Et qu'en fait, Pierrick Demorel et Gilles Rochier, tous les deux, en même temps, vous ont dit ça va, on n'a pas dit de bêtises.
Non, on aimerait retourner bien au stade sans problème, quoi.
Pardon ?
On aimerait retourner au stade sans problème.
Il y a un match samedi, j'ai envie qu'il me laisse rentrer quand même.
C'est ça. Voilà, donc on veut se mettre bien avec vous. En revanche, il y a eu un petit échange de nouveau sur cette chanson de Queen. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça vous va pas ? We are the champions ? Le choix
non,
de Gilles Rochier,
c'est son choix.
C'est son choix. Assume, Gilles. C'est
pourquoi je comprends pas pourquoi je suis en sueur. Moi.
Vous vous faites tacler hein, depuis tout à l'heure.
C'est étrange.
C'est ça,
étrange.
Hein, c'est terrible. Nous, on va voir si on va se faire insulter nous aussi. Voilà la chanson que nous, on a voulu vous diffuser. Écoutez.
On marche encore et nous sommes de plus en plus forts.
Je ne sais pas du tout ce que je
dois
voir
dans
ce
sourire.
Vincent, Chutet-Mézins. C'était pas la bonne non plus.
Si, c'était très bien.
Si, ça va.
Si, si, c'est un chant de supporters qui est tiré d'un groupe qui s'appelle 8-6 Crew, dont le chanteur est membre dans la tribune. Donc si, c'est quelque chose qui...
Donc ça va, ça passe.
C'est très très bien.
Alors j'ai lu que les supporters du Red Star étaient les seuls à n'avoir slogan ni à ne pas avoir de slogan ni homophobe, ni sexiste. Est-ce que c'est vrai ça ? Faites attention à ça ?
On fait attention, ouais.
Ah oui, donc en fait vous avez des joueurs différents, mais vous êtes aussi des supporters un peu
différents, ouais.
En c'est, quoi
voilà, après on n'a pas un organe de contrôle au sein de la tribune, mais bien entendu on fait vachement attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Par exemple, il y a un slogan... on a toujours les supporters ont toujours un rapport compliqué à l'arbitre dans pas mal de stades.
ce que vous décrivez comme compliqué, c'est quoi ? C'est le moment où vous avez envie de le défoncer, c'est ça ?
Non, mais les mauvaises décisions qui sont un peu prises à l'encontre de son équipe, on a toujours l'impression qu'il siffle contre nous. Et par exemple, dans pas mal de stades où vous pouvez entendre des arbitres enculés, nous chez nous on a un slogan qui est un peu plus engagé, un peu plus drôle aussi, c'est flic arbitre ou militaire, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un salaire, par exemple.
Ben voilà, mais quand on vous dit que c'est des bisounours, les supporters du Red Star, voilà, c'est des gentils. Alors, vous êtes heureux, j'imagine, parce que la saison de foot vient de reprendre, ça fait du bien, là ?
Ça fait du bien, ouais. Surtout, elle vient de reprendre chez nous, dans le stade, au stade Bord, après 2 ans d'exil. Et
vous avez des mots très forts, vous parlez d'exil, vous parlez de purgatoire. Alors j'explique que tant que le Red Star jouait en Ligue 2, ce qui a été le cas les 2 saisons précédentes, comme le stade n'était pas homologué, vous avez dû jouer... Alors dites-moi ce qui est pire, vous avez dû jouer à Beauvais ou dans le 16e arrondissement à Paris. Est-ce que c'est mieux d'être loin géographiquement ou très très loin culturellement parlant ?
Ah, c'est dans les deux cas, c'est une purge. Sincèrement, dans les deux cas, c'est un moment qui a été très difficile pour nous supporters du Red Star. C'est pour ça que là, on vient de jouer 2 matchs au stade Bauer, enfin... Moi, le premier match qu'on a repris en championnat national contre Pau, et j'ai vu mais un nombre incalculable de personnes rentrer dans le stade avec les bras en l'air, avec la banane, le sourire aux lèvres, et on sentait vraiment que c'était une délivrance, quoi. On a vraiment vécu 2 saisons très très compliquées. Et
mais pourquoi c'est si important ?
C'est si important. Enfin, nous, on a toujours dit, et ça apparaît comme une évidence aujourd'hui, que le Stade Bauer, c'est la maison du Red Star, c'est son garant, c'est un peu ce qui fait son identité. Et il y a un lien très très fort à notre sens.
Sauf que Pierrick Demorel, c'est aussi ce qui l'empêche d'évoluer. C'est-à-dire que si on
c'est
veut,
un peu le paradoxe,
si on veut grimper, il faut sortir du stade.
Il y avait une forme de... Il va falloir... De toute façon, cette question reste en suspens. Puisqu'aujourd'hui le Red Star est en national, mais alors Vincent est plus au courant que moi sur ces dossiers, mais aujourd'hui le Red Star est en national, donc peut jouer à Bauer, et le club communique beaucoup sur ce retour à la maison, abonnez-vous, le Red Star joue chez lui. Sauf que si dans un an le club se retrouve à nouveau en Ligue 2, il faudra repartir. Donc on a une espèce de stand-by, mais Bauer, ça reste... oui, c'est paradoxal, parce que ce stade, entre guillemets, c'est une épine dans le pied, parce que il est complètement atypique. Il est au cœur même de la ville. Ouais. Vous n'avez pas quatre tribunes en foot. Dans les stades, il y a deux virages qui sont les tribunes derrière les buts et puis les tribunes latérales. À Bauer, vous n'en avez que trois, puisque un des deux virages derrière les buts, c'est un HLM en fait. Les gens se mettent à la fenêtre de leur cuisine pour regarder le match. Comment vous réaménagez une enceinte qui est comme ça, qui est totalement atypique, mais qui en même temps, il y a une forme de logique. C'est-à-dire que c'est une enceinte, je l'ai dit, qui est d'abord historique. 1910, qui a quasiment pas été rénové depuis.
1909.
Oula, la Star
Wars. C'est ça, c'est 1909.
J'étais au prix de voler. Et Gilles qui fait le malin à côté de moi. Calme-toi, Gilles.
Et puis, il y a même une partie du toit arrachée par la tempête de 99.
C'est ça, par la tempête de décembre 99. Ouais. Et aujourd'hui, cette tribune est toujours découverte. Et on le voit très bien dans le dessin de Gilles. Il nous a dessiné justement dans cette tribune à ciel ouvert.
Mais pourquoi personne se dit, tiens, je vais aller mettre de l'argent pour cette équipe-là?
Alors là, je vais laisser la parole à Vincent. Mais le problème, c'est que c'est un équipement municipal qui profite au Red Star. Et que, pour résumer, j'ai l'impression que personne ne veut payer, en fait.
C'est un peu ça. Enfin, c'est le nerf de la guerre, c'est un peu l'argent. C'est un peu maintenant la question, c'est de savoir le stade, comme le disait Pierrick, est municipal, donc il est occupé par le Red Star. Donc ça fait plusieurs années qu'il y a eu des discussions, il y a eu des réunions, il y a eu des projets qui ont été mis en avant, qui ont toujours capoté à cette question de l'argent. Maintenant, aujourd'hui, je pense que cette saison, comme le disait Pierrick, va être décisive parce que effectivement, on est retombé en national chez nous. Si on est amené à remonter en deuxième division, quoi qu'il arrive, le problème du stade va se reposer.
Mais vous, à choisir entre une équipe qui tutoie les sommets ou une équipe qui reste dans son stade, votre choix est fait, quoi.
Non, moi, je pense que les deux sont jouables. C'est pour ça que nous, avec le collectif, on avait défendu un contre-projet à l'époque où les différents projets qui étaient menés étaient en dehors du stade Bauer. Nous, on avait mené un contre-projet justement au stade Bauer. Nous, on considère que dans ce stade et dans ce quartier, il y a la place de faire un stade pour pouvoir évoluer dans les divisions supérieures.
Vous êtes bagarré pour ce projet-là. Vous avez fait une campagne de crowdfunding, c'est ça? Vous avez réussi à récolter 25 000 euros?
C'est ça, quasiment 26 000
euros. Sur les 5 millions que coûterait la rénovation du stade?
Ah ouais, mais, et même plus aujourd'hui. Donc, non, on est bien loin du compte, effectivement. Maintenant, c'était aussi un moyen de rassembler aussi les gens, de dire, bah voilà, nous, personne ne va mettre de l'argent à l'heure actuelle dans le stade Bauer, bah nous, on va mettre un peu la main à la pâte. Et c'était aussi un moyen d'alerter le crowdfunding. On l'a fait à l'époque de l'Euro 2016 qui se déroule en France. Donc on était en plein dans la problématique justement de la construction de nouveaux stades. Et c'est aussi un moyen d'attirer le regard et l'attention sur le devenir du stade Bauer.
Alors ça, c'est quelque chose qui m'a surprise aussi à la lecture de votre article. Dans les périodes de difficultés financières, les joueurs, les dirigeants ont mis la main à la poche eux-mêmes.
Oui, on a parlé de Roger Lemaire, mais c'est arrivé effectivement. Ça rejoint là, cette idée d'attachement au Red Star dont on parlait. Les clubs de football, ça reste des entreprises qui peuvent disparaître. Et parfois, effectivement, il faut aller chercher l'argent, là il y en a. Et parfois, l'argent, c'est les poches des dirigeants, des joueurs, des gens qui sont attachés à ce club.
Alors aujourd'hui, le président du club, pour la première fois, n'est pas quelqu'un qui est issu du Serail. Il était PDG d'une boîte de production, d'une société de production. Ça change quoi? Rien du tout, ou ça change quand même un peu la façon de diriger le club? Gilles Rochier ou Pierre Guimard, comme vous voulez?
Bah, il gère ça comme une entreprise, hein, après tout, puisqu'il y a un paquet de salariés.
Mais dans une logique de rentabilité qui paye quand même, parce que si le Red Star remonte en Ligue 2 deux saisons d'affilée, c'est sous sa présidence, donc ça marche.
Et c'est aussi parce qu'ils ont gagné sur le terrain, non?
Ouais, enfin, s'ils gagnent sur le terrain, c'est aussi parce qu'il y a des décisions qui sont prises.
Après, est-ce que le club est rentable en Ligue 2? Typiquement, quand on parlait de déménagement, vous quittez votre stade, donc vous allez à Beauvais, à Jean-Bouin, c'est des enceintes que vous louez, que vous remplissez pas, du coup, puisque les gens ne viennent pas. Vous avez vos historiques qui viennent, mais certainement pas à Beauvais. Vous avez certes un peu les droits télé, mais est-ce que vraiment, aujourd'hui, le Red Star et tous les clubs de foot en général sont des entreprises rentables? Je sais pas.
Alors, de toute façon, vous parlez de tous les clubs de foot en général. Ce qui arrive au Red Star, la question qu'il se pose aujourd'hui, c'est une question que se sont posées beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs ces dernières années. C'est-à-dire, est-ce qu'on quitte nos enceintes historiques?
C'est une vraie tension. C'est une tension entre l'histoire et la réalité du football tel qu'il est aujourd'hui. C'est ce que disait Vincent. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que pour grandir, il faut quitter Bauer coûte que coûte. Peut-être qu'effectivement, il y a un entre-deux à trouver, mais oui, il y a une question d'identité. Aujourd'hui, le foot professionnel, c'est beaucoup d'argent, c'est des sponsors, c'est des gros salaires. On parlait de la comparaison avec le PSG, bah oui, c'est deux mondes. Les joueurs du Red Star ne coûtent pas 222 millions d'euros, sont pas connus, sont pas des stars. C'est vraiment difficile de voir Comment exister dans ce foot aujourd'hui qui est très économique? Aujourd'hui, vous lisez l'équipe, vous avez l'impression de lire les échos, en fait. Mais c'est la réalité de
rarement,
ce sport.
J'avoue.
Non, mais les gens qui lisent l'équipe ont l'impression de lire les échos.
Non, mais je vous ai lu, vous, voilà.
Ah bah c'est gentil, ça me fait plaisir. Mais non, c'est vrai, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on va en Ligue 2 et du coup, on achète des joueurs très chers, on augmente notre budget, on déménage, on va dans un stade tout neuf? C'était ça le rêve du Red Star au début, c'était une enceinte dans un quartier de Saint-Ouen sur les docks. Et un peu ce que fait Jackie Lorenzetti à Nanterre avec le Racing, une enceinte qui soit à la fois stade de foot, salle de concert. Et je regarde Vincent, les supporters ont dit non, on veut pas de ça. Y a une vraie tension aujourd'hui entre ce que demandent les réalités du football et votre identité propre, votre histoire.
Est-ce que, Vincent Chutamezin, c'est ce que le public, est-ce que les supporters du Red Star changent? Est-ce que, par exemple, vous récupérez des gens qui auraient pu être dégoûtés par le côté un peu trop foot business du PSG ou...
J'ai pas cette impression, à vrai dire. Enfin, je ressens pas un afflux massif de gens qui seraient dégoûtés de ce côté-là, qui viendraient. Non, la vraie nouveauté pour nous, c'est, on croise énormément de jeunes qui ont 17, qui ont 18 ans. Et qui viennent maintenant voir leur premier match chez nous, au Red Star. Ça, c'est une nouveauté que des jeunes de cet âge-là viennent voir leur premier match chez nous.
Parce qu'avant, ils allaient où?
Avant, je pense qu'ils allaient au PSG, ouais.
Vous, votre premier match de foot, c'était où?
C'était au Red Star en 1994. C'est mon grand-père qui m'y a emmené parce que moi, j'ai grandi du côté de la porte de Clignancourt. Donc, juste à côté, il y a juste à traverser le périph et on est au stade Bauer. Et c'est vraiment mon grand-père qui m'a emmené en 94 voir le Red Star. Donc, c'est avec lui que...
Vous en gardez quoi comme souvenir?
Ben, des bons souvenirs. Enfin, c'était... C'était assez particulier à l'époque. Enfin, le stade tel que je le connais aujourd'hui n'a pas trop changé par rapport à ce que j'ai connu moi il y a 15-20 ans.
C'est un peu le problème d'ailleurs.
C'est un peu ce qui moi m'a forgé aussi, ce qui m'a renforcé, ce qui m'a poussé aussi à m'engager pour la défense de ce stade. Mais il y a un lien qui est très fort. Moi en tout cas, le lien avec ce stade, il est très fort. C'est que on a été délocalisé encore une fois à la Courneuve entre 98 et 2002. Et moi, j'ai pas assisté à un seul match pendant ces 4 ans.
Ah oui? Alors, pourquoi? Parce que c'est pas très loin.
C'est pas très loin, mais c'est pas à l'époque, j'avais 13, 14 ans. Donc, c'est ni forcément un choix, c'est que les matchs se jouaient plus à côté de chez moi, donc j'avais plus les voir.
C'est ça. Donc, le Red Star, c'est Bauer. Point.
Exactement.
À quoi ça ressemble la vie d'un supporter chevronné comme vous? C'est-à-dire, vous ratez pas un match, vous mangez Red Star, vous respirez Red Star, vous dormez Red Star?
En tout cas, il n'y a pas une journée, effectivement, sans qu'on ne pense pas au Red Star, à son stade.
Et même le mercredi matin, vous vous faites venir à la radio pour en parler, quoi.
Exactement.
Exactement. Donc c'est sans fin.
C'est sans fin. Enfin, c'est quelque chose qui, nous, à la rigueur, on pourra un jour, le jour où il y aura un projet, où il y aura une rénovation du stade Bauer qui sera entériné, ce jour-là, on pourra peut-être aller boire un coup et dire, bon, on lâche un peu de lest. On a, entre guillemets, réussi notre devoir.
Boire de l'eau, évidemment, puisque vous êtes des bisounours, hein, on l'a dit. Vous l'aimez, ce club, définitivement. Alors, bouchez-vous les oreilles, s'il vous plaît, Vincent Chutamezin, parce qu'avec ce qui suit, elles vont saigner un petit peu. C'est un texte de Pierre Desproges que vous avez choisi, Gilles Rochier. Il date de 1986, on est en pleine Coupe du Monde, et il s'appelle « À mort le foot ».
Gagné l'équipe France, on recule maintenant, qui va pouvoir tirer, tire, boum,
le football. Quel sport est plus laid, plus balourd et moins gracieux que le football? Quelle harmonie, quelle élégance l'esthète de base pourrait-il bien découvrir dans les trottinements pataux de 22 handicapés velus qui poussent des balles comme on pousse un étron en haranant des râles vulgaires de bœufs éteints? Quel bâtard en rut de quel corneau branlé oserait manifester publiquement sa libido en s'enlaçant frénétiquement comme ils le font par paquets d'huîtres à grands coups de pattes grasses et mouillées en ululant des gutturalités simiesques à choquer un rocker d'usine? Quel brute glacé, quel monstre décérébré de quel ordre noir oserait rire sur des cadavres comme nous le vîmes en vérité certains soirs du Hazel, où vos idoles, calamiteux goalistes extatiques, ont exulté de joie folle au milieu de 40 morts piétinés, tout ça parce que la babale était dans les bois. Je vous hais, footballeur, vous ne m'avez fait vibrer qu'une fois, le jour où j'ai appris que vous aviez attrapé la chiasse mexicaine en suçant des frites aztèques. J'eusse aimé que les amibes vous coupassent les pattes jusqu'à la fin du tournoi. Mais Dieu n'a pas voulu. Ça ne m'a pas surpris de sa part, il est des vôtres. Il est comme vous, il est partout, tout le temps. Quoi qu'on fasse et où qu'on se planque, on ne peut y échapper.
Gilles Rochier, vous aviez envie de nous l'énerver, Vincent Chutamezin?
Pas du tout, pas du tout, mais s'il en faut pour tout le monde. Bien souvent, les supporters sont la cible, comme ça.
Pas du tout, je vois pas du tout de quoi vous parlez.
Ouais, souvent on est un peu tâtelé, comme quand on n'aurait pas de cervelle ou de choses comme ça. Je me rappelle de Renaud aussi, le chanteur, on avait souvent tâtelé les supporters ou les joueurs de foot. Mais je crois qu'il y a eu une période où il était grand supporter de l'OM, et comme quoi on peut changer.
Et pourquoi si vous avez choisi ce texte-là?
Ouais, parce qu'il est virulent en fait, il est bien écrit, et puis deux, trois trucs qui sont vrais quand même, quoi. Donc,
comme
Le nombre de joueurs, déjà, qui me dit, quoi.
c'est pas mal, c'est un bon début.
Et qu'il y a certains matchs qui sont pas très, très intéressants, qu'il y a certains supporters qui ont pas inventé l'eau chaude non plus. Faut être sincère, quoi. C'est pas toujours des prix Nobel, les mecs, quoi. Donc, mais il y a aussi...
Je vois Pierrick de Morel qui est en train de se prendre le visage dans les mains, qui est mort de rire.
Ça, c'est l'art du contre-pied.
C'est ce qu'on appelle un footix, lui. Il est supporter de toutes les équipes. Il n'y a aucun intérêt.
Oh là là, comment tu peux dire ça?
Comment vous êtes tombé dans le foot, vous, Pierrick de Morel?
C'est pas très original. C'est le 12 juillet 1998. J'avais 9 ans, un soir de Coupe du Monde. On s'en souvient forcément. Et après,
c'est votre père comme Gilles Rochier ou c'est votre grand-père comme
Ah, c'est moi tout
Vincent.
Seul. C'était en colonie de vacances dans les Alpes et voilà. Et c'était ce soir-là, il y avait un écran géant, on était tous là et après.
Qu'est-ce qui vous a attrapé en fait? C'est quoi? C'est.
Eh ben, c'est ce que je retrouve au Red Star. Non, pas tellement. C'est le côté convivial en fait. C'est que vous êtes en colo avec des gamins de 9-10 ans que vous connaissez pas forcément, sont pas forcément vos amis, vous venez d'arriver, mais tout le monde se retrouve autour de ce sport, et là on parle du Red Star pendant une heure, mais on pourrait en parler pendant 10 heures en fait, et tout le monde aurait un avis à donner. Et Gilles, on se connaissait pas avant ce projet, on avait des anecdotes de foot, on se prenait des cafés qui duraient des heures, parce que c'est aussi un peu la magie de ce sport, c'est que vous allez n'importe où, vous vous posez, vous parlez de foot, et puis vous allez forcément avoir quelqu'un qui va vous dire ouais, moi j'ai telle équipe, tel truc, et voilà, c'est parti.
Alors là, vous êtes trois hommes autour de cette table, on l'évoquait tout à l'heure, c'est un monde qui s'est ouvert, notamment à partir de 98, aux femmes. Il y a une équipe de supportrices, on va dire supportrices, hein, les Red Star Girls, qui a déboulé dans les tribunes de Bauer. Vous en pensez quoi, vous, Vincent Chutemezins?
Pour nous, c'est normal, en fait. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous posent cette question, à savoir, mais vous avez des filles qui font partie du public du Red Star. Nous, pour nous, c'est normal, en fait. C'est quelque chose qui est normal chez nous, qui est pas normal, enfin forcément dans d'autres tribunes, mais chez nous c'est quelque chose qui est logique, qui est normal. Enfin tout le monde a sa place chez nous pour supporter le Red Star.
Et ben voilà, quand on vous dit qu'il est différent ce club, l'étoile du Red Star brille haut dans ce studio, à moins que ce ne soit le soleil. Le temps court, l'heure avance et c'est Feist qui nous entraîne, qui nous emmène oula loin. Thank you. Faced, I'm not running away. Ah ben nous non plus, on don't run away. On est là, mais c'est vrai que le temps file. Alors zou, cap sur vos étés.
Dans quel monde on vit ? L'été sur France Inter.
Mais oui, où êtes-vous ? Où en êtes-vous en ce mercredi 16 août ? Où en êtes-vous de vos étés ? Est-ce que vous jouez les prolongations ? Si c'est le cas, surtout appelez-nous de là où vous êtes. Faites le 01 56 40 55 35 et racontez-nous vos plages, vos ruisseaux, vos stades aussi, tiens, pourquoi pas. Et la montagne ? Oui, la montagne, on prend aussi avec du violoncelle en prime, tiens.
Bonjour France Inter, je m'appelle Marie, j'ai 49 ans et j'habite Angers. Mon été particulier à moi, c'est une anecdote qui s'est passée il y a 2 ans, pendant l'été 2015, où j'étais en randonnée avec ma sœur Monique dans le massif des Écrins, c'est dans les Hautes-Alpes. Il faut imaginer le fond de la vallée de la Bérarde, un monde entièrement sauvage, sans aucune voiture et bien sûr sans réseau. C'est au milieu des chamois et des marmottes, entouré par les glaciers et des sommets à plus de 3500 mètres. Notre rando nous menait de chalet en chalet, où nous dînions le soir en compagnie d'alpinistes chevronnés qui gravissaient les pics et les glaciers autour de nous. Un jour, après 3 heures de marche dans la vallée glaciaire, après avoir traversé des torrents, franchi des pierriers, rencontré des névés, et pour beaucoup d'humains, nous sommes arrivés au refuge de la Pilate, perché à plus de 2700 mètres. Il faisait un temps magnifique. On avait enlevé les chaussures, posé le sac à dos, et on hasardait au soleil en admirant le décor somptueux. C'est là qu'on a repéré sur le glacier face à nous 2 petits points qui semblaient descendre. C'est ça, 2 alpinistes descendaient jusqu'au refuge. Plus ils avançaient, plus leur silhouette se dessinait, et le premier semblait transporter un sac à dos énorme. C'est quand il est arrivé sur la terrasse du refuge qu'on a réalisé que son sac à dos était en fait un étui à guitare. Ce gars descendait du glacier avec un instrument de musique sur le dos, et pas une flûte à bec. Il s'est délesté de tout son attirail et a ouvert son étui. Nouvelle surprise, ce n'était pas une guitare, mais un violoncelle. Je peux vous dire qu'écouter du Rostropovitch à 2700 mètres d'altitude au milieu de nulle part, c'est un souvenir absolument inoubliable. Et merci à ce musicien alpiniste un peu fou de nous avoir fait partager ce moment. À bientôt!
Merci Marie pour cet été si particulier. L'ombre de votre musicien alpiniste un peu fou plane dans ce studio 521. Je me tourne vers vous, Gilles Rochier. Oui. Votre été particulier à vous, c'était l'an dernier. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah oui, j'ai appris à nager. Je n'avais pas nagé.
Et j'ai vous n'aviez jamais appris ?
Ah, je barbotais là où j'avais pied. Et là, j'ai appris à nager et j'ai trouvé ça très agréable.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'apprendre finalement ?
Bah, de voir mes enfants nager et pas moi, quoi. Déjà, rien que ça. Et puis, je voulais quand même que...
Vous aviez peur de l'eau jusque-là ?
Non, je ne trouvais pas l'intérêt de ce truc, en fait.
Vous l'avez trouvé, là ?
Ouais. Après, je vais parler... Bah, ça fait déjà du bien. C'est des mouvements que je ne connaissais pas. On flotte, ça détend.
Vous avez appris comment, du coup ?
En fait, vraiment, en regardant les autres, en me lançant, en fait.
Ah ouais ?
Ouais.
Sans bouée, sans rien, ou si, quand même ?
Ah si, avec la bouée, enfin, les brassards, tout ça. J'ai tenté la piscine, d'abord, avant d'aller en mer, quand même. Mais attention, hein, quand je dis je nage maintenant, je nageouille, hein, je ne suis pas prêt pour une traversée.
Qui sait, peut-être l'été prochain, on verra.
Peut-être.
Hein. C'est comme le dessin, en fait. Le dessin aussi, vous êtes complètement autodidacte.
Ouais, c'est ça.
Vous avez appris tout seul ?
Je ne sais même pas si j'ai appris, je me suis débrouillé avec le potentiel que j'avais à ce moment-là pour pouvoir raconter des histoires. Mais foncièrement, j'ai appris, je dessine. Quoi.
Vous dessinez et vous dessinez toujours comme un fou, tout le temps, partout, tout le temps, sur un objet que vous nous avez amené, qui est votre objet à vous, votre souvenir. Et vous l'avez là ?
Oui, je vous le montre.
Vous pouvez nous le montrer ? Est-ce que vous êtes un maniaque ? Est-ce qu'il y a une forme particulière ? Est-ce qu'il y a une matière particulière qu'il doit avoir ? Est-ce que... On est sur du Moleskine, hein.
C'est un petit Rodia. Je mets pas beaucoup d'argent dans mes carnets. Je me suis dit, si un jour je suis très très pauvre, j'achèterai des carnets pas chers et je serai pas frustré. alors c'est pas très audacieux, hein, pour un auteur d'amener son carnet. J'imagine que d'autres le feront.
Mais c'est toujours aussi beau et aussi poétique à feuilleter. Merci beaucoup Gilles Rochier de l'avoir partagé avec nous. Évidemment, vous le retrouverez sur notre Instagram, hashtag dans quel monde on vit, et puis bien sûr vendredi dans le pêle-mêle d'Alexandre Comte. Un grand merci à vous tous d'être venus nous voir. Vincent, je suis à Maisonson, vous souhaite plein de bons matchs, bien comme il faut, en compagnie de Pierrick Demorel et de Gilles Rochier qui vont se faire inviter, ça c'est sûr. Football Social Club, c'est à lire dans le numéro estival de la revue Dessinée. Merci à tous les trois.